Un adolescent, livre 2, chapitre 1, suite. 2. Dans la rue, je consultais inquiètement ma montre. Pas encore 2 heures. 1 heure à attendre. Comment occuper ce temps-là, mon impatient loisir? Soit, j'irai voir Anna Andreïevna Versilov, ma sœur. Ces derniers temps, je me rendais assez souvent chez elle. Chaque fois, elle fixait elle-même la date de ma visite suivante. Et toujours, quand j'entrais, elle feignait un peu d'étonnement, comme à une visite inopinée. J'avais remarqué maintes fois ce trait de son caractère. Elle vivait chez Madame Fanariotov, sa grand-mère. Versilov ne donnait rien pour son entretien, où elle occupait 2 chambres à part. J'entrais chez elle ou en sortais sans jamais rencontrer aucun Fanariotov. Elle recevait qui elle voulait et employait son temps à sa guise. Il est vrai qu'elle avait déjà 22 ans. Depuis 1 an, elle avait presque cessé de fréquenter dans le monde, bien que Madame Fanariotov ne lésinât pas sur les dépenses de sa petite fille. Il me plaisait de la voir toujours dans les toilettes les plus modestes et toujours occupée, livre ou menu travail manuel. Elle avait de l'austérité dans la mine, était peu causeuse, parlait avec gravité et savait très bien écouter. Art que j'ignore. Quand je lui disais que, malgré la différence des lignes, l'expression de son visage me rappelait Versilov, elle rougissait. Elle rougissait souvent, mais à peine, et j'aimais beaucoup cette particularité de physionomie. Elle était instruite, avait beaucoup plus de lecture que moi. Il m'arrivait de causer avec elle du prince Serge, et sur ce thème elle m'écoutait volontiers, sans d'ailleurs me poser de questions. Quant à l'éventualité d'un mariage entre eux, c'est là un sujet, et non le seul, que je n'osais aborder. Devant elle, je n'appelais jamais Versilov par son nom, mais toujours André Petrovitch. De ma parenté avec elle, nous ne parlions pas, fût-ce allusivement. Et parfois me venait en tête cette idée absurde que peut-être elle ignorait cette parenté, tant sa réserve était stricte. 3. Je trouvais auprès d'elle Lise. Je savais qu'elle se connaissait, s'étant rencontrée au berceau du nourrisson. De cette fantaisie qu'avait eue la fière Anna Andreïevna de voir l'enfant, je parlerai peut-être plus tard. Pourtant, je fus surpris, et agréablement, qu'elle eût invité Lise à lui rendre visite. Sur la table et sur leurs genoux s'étalait une robe d'Anna Andreïevna, fort belle, mais point toute neuve, qu'il s'agissait de transformer. Lise était experte à ses besognes, et c'est pourquoi se tenait ce solennel conseil des femmes sages. Je me rappelais Versilov, et souris. J'étais en disposition d'esprit excellente. « Vous êtes très gai aujourd'hui, c'est charmant !» dit Anna Andreïevna. « Lise sait combien je suis désagréable quand je ne suis pas gai. »« Peut-être Anna Andreïevna le sait-elle aussi ?» remarqua Lise. « Et que faites-vous maintenant ?» s'enquit Anna Andreïevna. « Présentement, je suis, comme vous voyez, assis à cette place, et je me demande pourquoi il m'est toujours plus agréable de vous trouver avec un livre qu'avec un ouvrage de couture. Vraiment, le travail manuel ne vous sied pas. Sur ce point, je suis de l'avis d'André Petrovitch. Vous ne vous décidez pas à entrer à l'université ? Je vous suis très reconnaissant de n'avoir pas oublié nos conversations, c'est-à-dire d'avoir pensé à moi. En ce qui concerne l'université, je ne suis pas encore bien fixée. D'ailleurs, je poursuis mon but. En d'autres termes, il a son secret, commenta Lise. Cesse de plaisanter, Lise. Un homme fort distingué me disait récemment que dans notre mouvement progressiste de ces 5 derniers lustres, on a vu à plein notre horrible ignorance. À qui incombe-t-elle qu'à nos universités? « Ce doit être papa qui a dit cela. Tu répètes souvent ses idées. »« Lise, ne me supposes-tu pas quelque esprit ? Et ce n'est pas déjà si commun de savoir écouter les paroles des gens d'esprit et de se les rappeler à propos, dit pour ma défense Anna Andreïevna. Précisément, Anna Andreïevna, repris-je avec chaleur, qui se désintéresse de la Russie n'est pas un citoyen. Nous avons supporté l'invasion tatare et 2 siècles d'esclavage, parce que sans doute le tatare et l'esclavage étaient de notre goût. Maintenant qu'on nous a lotis de la liberté, il faut la supporter. En serons-nous capables? Sera-t-elle de notre goût? Question. Lise jeta un regard rapide à Anna Andreïevna, et celle-ci aussitôt baissa les yeux et se mit à chercher quelque chose autour d'elle. Lise aussi se composait un maintien. Mais nos regards se rencontrèrent. Elle pouffa. Je m'enflammai. Lise, tu es extraordinaire. Pardonne-moi, fit-elle en cessant de rire et presque avec tristesse. J'ai dans la tête Dieu sait quoi. Et en effet, des larmes tremblaient dans sa voix. Horriblement confus, je pris sa main. Vous êtes très bon, observa doucement Anna Andreïevna, me voyant baiser la main de Lise. Je suis heureux, Lise, de te voir joyeuse. Anna Andreïevna, croirez-vous que depuis quelques jours, elle a toujours, quand je la rencontre, un regard étrange, un regard où semble vaciller une inquiétude. A-t-il appris quelque chose? Tout va-t-il bien? Anna Andreïevna la regardait. Je me rendis bien compte qu'elle se connaissait mieux que je ne l'avais supposé d'abord, et cette pensée me fut lénifiante. « Vous avez dit tout à l'heure que je suis bon, je ne sais, mais chez vous, je me sens meilleure. Et moi, je me sens très heureuse de vous entendre parler ainsi, » me répondit-elle de son doux contralto. « Que fait notre malade ? » demandai-je. « Oh, il va beaucoup mieux, il se lève. Hier et aujourd'hui, il s'est promené en voiture. Je vois qu'encore aujourd'hui, vous ne lui avez pas fait de visite. » Vous voir lui eût pourtant été un plaisir. Je suis coupable envers lui. Mais maintenant c'est vous qui le soignez. Comme un grand inconstant qu'il est, il m'a remplacé par vous. C'est chez le prince Serge Petrovitch que j'ai été. Elle fit une moue. Peut-être ma plaisanterie était-elle de mauvais goût. À propos, Lise, tu t'es présentée tout à l'heure chez Daria Onésimovna. Oui? Mais je croyais que tu allais tous les jours chez le prince malade, demanda-t-elle comme pour dire quelque chose. J'y vais, mais je dois avouer que la porte franchie, je tourne à gauche. Le prince a remarqué que vous alliez souvent présenter vos hommages à Catherine Nikolaïevna. Il l'a dit hier, en riant, dit Anna Andreïevna. De quoi a-t-il ri? Il a plaisanté, vous savez. Il disait... « Ma foi, il faut croire qu'une belle personne ne produit pas toujours sur un jeune homme une impression répulsive. Vous savez, il a dit cela comme... « Ce n'est pas lui qui a dit cela, c'est vous. »« Moi? Pourquoi donc? C'est bel et bien lui, lui tout seul. »« Eh bien, et si cette belle fait attention à ce jeune homme, malgré son peu d'importance et tant de timidité et trop de candeur, et si elle lui donne le pas sur sa cour de soupirant? Hein? Les interpellai-je avec une hardiesse imbécile. C'est trop beau! Tu te perdras! Dit Lise, rieuse. Je me perdrai? Criai-je. Non, je ne me perdrai pas. Que sur ma route je rencontre la femme, elle me suivra. On ne me barre pas la route impunément. Lise, depuis, m'a dit se rappeler que j'avais lancé cette proclamation très sérieusement et comme en pesant les termes, et tout ensemble, si drôlement qu'on ne pouvait se retenir. En effet, Anna Andreïevna ne parvint pas à se contraindre. « Riez, riez de moi » exclamai-je. « J'en ai encore de la joie, car j'aime votre rire, Anna Andreïevna. Chez vous, il y a une faculté qui m'enchante. » Vous vous taisez, le visage placide, et puis vous éclatez d'un rire qu'on eût pu prévoir une seconde auparavant. J'ai connu à Moscou une dame que j'observais parfois à la dérobée. Elle était presque aussi belle que vous, mais elle ne savait pas rire ainsi, et elle perdait son charme dans la circonstance même où le vôtre s'exalte. Et il y a longtemps que je voulais vous dire cela. Je créai de toutes pièces la dame de Moscou, dans mon souci de faire plaisir à celle de Pétersbourg. « On jurerait, dit-elle avec un gentil sourire, que vous êtes ces temps-ci sous l'influence de quelques belles personnes. À propos, tout récemment encore, vous vous exprimiez de la façon la plus sévère sur le compte de Catherine Nikolaïevna. » Je m'exprimais mal. J'étais dupe d'un mensonge qu'il a présenté comme l'ennemi d'André Petrovitch. On le calomniait lui aussi, en prétendant qu'il l'aimait, qu'il lui avait offert je ne sais quoi, sa main, son cœur. Autre infamie, des gens imputent à cette femme 1. D'avoir promis au prince Serge Petrovitch de l'épouser dès qu'elle serait veuve, 2. De n'avoir pas tenu cette promesse. Or, je sais de sources certaines que c'est faux, ou plus exactement que c'était une plaisanterie. Un jour, à l'étranger, elle lui a dit, mais par jeu, « Peut-être dans l'avenir. » Parole en l'air, de quoi il n'y avait rien à inférer. Le prince ne pouvait accorder de crédit à un engagement de cette sorte, et il ne se soucia pas de lui en accorder. Ses idées, me semble-t-il, sont un peu différentes. Et il n'y a pas longtemps, chez lui, comme Natchokine donnait pour probable le mariage de Catherine Nikolaïevna avec le baron Bioring, il a pris cette nouvelle le mieux du monde. Chez lui ? Natchokine était chez lui ? S'enquit Anna Andreïevna. Natchokine lui-même, un homme tout à fait distingué. Et Natchokine lui parlait de ce mariage avec Bioring ? Pas précisément de ce mariage, mais de sa possibilité. Il disait se faire l'écho de bruits en circulation. Quant à moi, je suis sûr que c'est un conte. Anna Andreïevna réfléchit et se pencha sur l'étoffe toujours étalée. J'aime le prince Serge Petrovitch, complétai-je avec chaleur. Il a ses défauts, sans doute, et je n'ai pas été sans lui en faire reproche. Mais ses défauts mêmes sont d'une âme noble. Aujourd'hui encore, nous avons failli nous quereller pour une idée. Il professe que pour avoir le droit d'exalter la vertu, il faut être irréprochable. Exigence illogique, mais qui marque un cœur noble. « Ah, quelle heure est-il » dis-je tout à coup en jetant un regard vers le cadran. « 3h-10. » Tout le temps que j'avais parlé du prince, elle m'avait regardé en dessous, avec un sourire malin, mais charmant. Elle savait pourquoi je le louais ainsi. Lise écoutait, la tête penchée sur son ouvrage. Depuis longtemps, elle n'était pas intervenue dans la conversation. Précipitamment, je prenais congé. « Vous avez peur d'être en retard ?»« Oui, non. Cependant, je suis en retard. Mais n'importe. Un mot seulement, Anna Andreïevna. » Commençai-je ému. Je ne puis ne pas vous le dire aujourd'hui. Bien des fois déjà, j'ai béni votre bonté et cette délicatesse qui vous a fait m'inviter à venir vous voir. Dans votre chambre, je me sens comme purifiée. Je sors de chez vous meilleure. Près de vous, non seulement je ne puis exprimer un mauvais sentiment, je ne pourrais même le ressentir. Et quand, en votre présence, je me rappelle quelqu'une de mes bassesses, je rougis en mon âme. Sachez aussi qu'il me fut agréable de rencontrer ma sœur chez vous aujourd'hui. Vous avez montré quelque chose de si fraternel. Si vous me permettez déjà de rompre la glace, que moi... » Mais déjà se rosissait son pâle visage. Elle s'affairait et, m'interrompant, « Croyez que je sais apprécier comme il convient vos sentiments. Je les avais compris sans parole, et depuis longtemps. » Elle s'arrêta, confuse, et me serra la main. Tout à coup, Lise me tira doucement par la manche. Je saluai, sortis. Mais dans l'autre chambre, Lise me rejoignit. 4. « Lise, pourquoi m'as-tu tiré par la manche ?»« Elle est méchante !» Rusée, elle ne mérite pas. Elle tient à toi pour les renseignements que tu lui donnes, murmura-t-elle dans un chuchotement vindicatif. Je ne lui avais jamais vu tel visage. Lise, qu'as-tu? C'est une si charmante fille. Ah! Alors c'est moi qui ne vaux rien. Mais qu'as-tu? Et en effet, je suis très mauvaise. Elle est sans doute la meilleure des jeunes filles, et moi la pire. Assez, laissons cela. Écoute, maman te fait dire par moi ce qu'elle n'ose pas dire elle-même. Ainsi s'est-elle exprimée. Cher Arcade, cesse de jouer. Cher, je t'en supplie. Maman aussi. Lise, je sais moi-même, mais je sais, j'ai fait preuve d'un misérable manque de caractère. Mais ce sont des enfantillages, pas plus. Vois-tu, j'ai fait des dettes comme un sot, et je veux maintenant me rattraper pour rendre. On peut gagner. Jusqu'ici, j'ai joué au hasard, niaisement. Maintenant, je tremblerai pour chaque rouble jeté sur le tapis, et je ne l'y jetterai qu'à bon escient. Il faudrait que je ne fusse pas moi pour ne pas gagner. Je n'ai pas encore la passion du jeu. Je ne l'acquerrai pas. Je saurai me retirer quand il me plaira. Je me libérerai de mes dettes, et alors je serai entièrement à vous. Dis à maman que je ne vous quitterai jamais. Ces 300 roubles de ce matin. Mais comment sais-tu? Dis-je en tremblant. Daria Onisimovna a tout entendu. Tout à coup, elle souleva une portière et me poussa dans la petite chambre octogone à pourtour de baie que l'on appelait la lanterne. Et j'entendis dans la cour une voix qui m'était familière et un tintement connu d'éperon. « Le prince Serge » chuchotai-je. « Oui, c'est lui » murmura-t-elle. « Pourquoi si émue ?»« Comme ça, mais pour rien au monde, je ne veux qu'il me rencontre. » « Tiens, tiens, ne te ferait-il pas la cour ? » dis-je en souriant. « Sortons, je t'accompagne. »« As-tu dit adieu là-bas ? » ?»« Oui, ma pelisse est dans l'antichambre. » Nous sortîmes. Dans l'escalier, je fus frappée d'une idée. « Sais-tu, Lise, il est peut-être venu la demander en mariage ? » ?»« Non, il ne fera pas de demande. » »« Tu ne sais pas, Lise. Eh bien, je l'aime, ce Serge. » Je viens de me quereller avec lui, mais je te jure que je l'aime et que je lui souhaite de réussir. Nous nous sommes réconciliés. Quand nous sommes heureux, nous sommes si bons. Vois-tu, il y a en lui de nobles pensées, ou du moins un terrain propice à leur croissance. Entre les mains d'une fille comme Anna Versilov, si ferme, si avisée, il serait bon et heureux. Il est dommage que je sois si pressée. Mais nous ferons tout de même quelques pas ensemble. Non, va, je rentrerai bien toute seule à la maison. Tu viendras dîner ? Oui, j'irai. J'irai, comme je l'ai promis. Écoute, Lise. Un drôle, immonde entre plusieurs. Un certain Siebielkov a sur ses affaires une influence néfaste. Des histoires, des faits de commerce, etc. En un mot, il le tient sous sa dépendance. Or, cet individu lui prône, comme une solution aux difficultés financières, le mariage avec Anna Andreïevna. Il serait loyal qu'on la prévînt. Elle décidera ensuite en connaissance de cause. Elle refusera. Qu'en penses-tu? Adieu, je n'ai pas le temps. Et dans son regard, je vis brusquement luire tant de haine que je m'écriai. Lise, ma chérie, pourquoi? « Ce n'est pas contre toi. Surtout, ne joue pas. »« Ah, tu y penses toujours. Soit, je ne jouerai plus. »« Tu as dit tout à l'heure, quand nous sommes heureux. Alors, tu es heureux ?»« Très, Lise, très. Mon Dieu, mais il est déjà 3 heures passées. Au revoir, petite Lise, Lisette, ma chérie. Est-ce qu'on peut faire attendre une femme? Est-ce permis ?»« C'est un rendez-vous ?» sourit Lise d'un sourire éteint. « Donne-moi ta petite main, pour le bonheur. »« Pour le bonheur? Ma main? À aucun prix !» Elle s'éloigna rapidement, je me jetai dans mon traîneau. Oui, oui, c'était ce bonheur qui faisait que, comme une taupe, je ne voyais rien dehors de moi. Chapitre 4 1 J'hésite maintenant à raconter. Il y a longtemps que tout cela est passé, et aujourd'hui ce me semble un mirage. Comment une telle femme eut-elle donné un rendez-vous à l'assez ignoble gamin que j'étais alors? Je venais de quitter Lise et fis les grands trains, tout en me demandant si ma raison ne déménageait pas. L'idée que cette femme pût m'avoir fixé un rendez-vous était folle. Eh bien, plus elle me paraissait folle, plus j'y croyais. Demain, à 3 heures, je serai chez Tatiana Pavlovna. Et c'était tout. Mais d'abord, dans son propre appartement, j'avais toujours été reçue seule, et rien ne s'opposait à ce qu'elle m'y dît tout ce qu'elle eût jugé à propos. Pourquoi donc avoir eu recours à Tatiana Pavlovna? Autre question. Tatiana Pavlovna sera-t-elle chez elle ou non? S'il s'agit d'un rendez-vous, Tatiana Pavlovna sera absente. Et dès lors, on devait admettre qu'elle avait fait à Tatiana ses confidences. Ainsi, Tatiana serait dans le secret? Hypothèse qui me paraissait absurde, quelque peu impudique, presque brutale. Et enfin, elle avait pu avoir le désir de venir chez Tatiana Pavlovna et me l'avait communiqué sans intention mystérieuse. Et abusivement, j'amplifiais le sens de paroles si simples. Le fait est qu'elle les avait dites avec un calme parfait et à l'issue d'une séance très ennuyeuse au cours de laquelle je m'étais tenu assis dans mon coin, mâchant ma langue et ne sachant que dire. Et elle m'avait vu partir sans manifester nul regret. Ces réflexions passaient en tohu-bohu dans ma tête. Pour m'y soustraire, je décrétais que j'entrerais, sonnerais et que je demanderais à la bonne « Tatiana Pavlovna est-elle chez elle ?» Son absence signifiera « un rendez-vous ». Mais je ne doutais pas, je ne doutais pas. J'avais vivement grimpé l'escalier. Devant la porte, toute appréhension disparut. « Qu'il arrive n'importe quoi !» Ça m'est égal, mais que je sache à quoi m'en tenir. » La servante avait ouvert. Avec son flegme crispant, elle nasilla que Tatiana Pavlovna était absente. « N'y a-t-il personne qui l'attende ? » voulus-je d'abord demander. Mais non. « Je verrai par moi-même, » pensais-je. « Ce sera plus sûr. » Ayant grommelé mon intention d'attendre son retour, je m'étais débarrassé de ma pelisse et j'avais ouvert la porte. Catherine Nikolaïevna était assise près de la fenêtre et attendait Tatiana Pavlovna. « Elle est donc absente ?» me demanda-t-elle comme avec ennui dès qu'elle m'aperçut. Et la voix et le visage répondaient si peu à ma prévision que je restais tout déconfit. « Qui est absente ? » avais-je balbutié. « Tatiana Pavlovna ! Je vous avais prié hier de lui faire savoir que je serai chez elle à 3 heures. Je ne l'ai pas vue du tout. Vous avez oublié ? » Je m'assis comme un condamné à mort. Ainsi, c'était là tout, et ce tout était clair comme 2 fois 2. Pourtant, je ne me rendais pas encore. Je ne me souviens pas que vous m'ayez dit de la prévenir. Je suis même sûre que vous ne m'avez rien demandé de tel. Vous avez dit tout simplement que vous seriez ici à 3 heures, répliquai-je, les yeux baissés. Vous avez omis de la prévenir, et d'autre part, vous saviez que je serais là. Alors, pourquoi êtes-vous venu? J'avais levé la tête. Ni raillerie ni colère ne se lisaient sur son visage, rien que son sourire clair et cette pétulance coutumière, une pétulance presque enfantine. Tu vois, je t'ai attrapé. « Eh bien, que répondras-tu maintenant ?» semblait dire tout son visage. Je ne voulus pas répondre, et de nouveau j'avais baissé les yeux. Silence d'une demi-minute. « Vous venez de chez papa ? » demanda-t-elle tout à coup. « Je viens de chez Anna Andreïevna, et n'étais point du tout chez le prince Nikolaï Ivanovitch, et vous le saviez, » avais-je ajouté subitement. « Il ne vous est rien arrivé de particulier chez Anna Andreïevna ?»« Autant dire que j'ai l'air d'un fou. »« Non. Avant d'aller chez Anna Andreïevna, j'avais déjà l'air d'un fou. »« Et même chez elle, vous n'avez pas retrouvé vos esprits ?»« Non, je n'y suis pas devenue plus raisonnable. Au fait, j'ai entendu dire que vous vous mariez avec le baron Bioring.
C'est elle qui vous l'a dit ?
C'est moi qui lui en ai fait part. Je l'ai entendu dire au prince Serge par Nat Shotkin, qui était en visite chez lui. Je continuais à ne pas lever les yeux vers elle. La voir, cela voulait dire être inondée de lumière et de joie. Or, je ne voulais pas être heureux. Un dépit indigné enfonçait en moi son aiguillon. En un instant, j'avais pris une décision énorme. Je commençais à parler de je ne sais plus quoi. J'étouffais. Je parlais indistinctement, mais j'osais déjà regarder. Mon cœur battait. D'abord, elle m'écouta avec ce sourire calme et patient qui ne l'abandonne guère. Mais peu à peu, un étonnement et ensuite de la frayeur parurent dans son regard. Ils persistèrent. Le sourire n'avait pas encore disparu, mais par moments, il tremblotait. « Qu'avez-vous ? » demandai-je, remarquant qu'elle avait tressailli.
« J'ai peur de vous. »«
Pourquoi ne partez-vous pas ? Vous savez que Tatiana Pavlovna est absente. Rien n'indique qu'elle doive rentrer bientôt. Il vous reste à vous lever et à partir. »
« Je voulais attendre, mais maintenant, en effet... »
Elle se leva à demi.
« Non, non, asseyez-vous. Voilà que vous tressaillez de nouveau. Mais même dans la peur, vous souriez. Vous avez toujours un sourire. Voilà que vous souriez franchement. »
« Vous divaguez ?»«
Je divague. »« J'ai peur, » murmura-t-elle.
« De quoi avez-vous peur ?
Que vous avisiez de défoncer le mur ?»
dit-elle en souriant encore, mais effrayée pour tout de bon.
« Je ne peux pas supporter votre sourire. »
Et de nouveau je me mis à parler. Une force me poussait. Jamais, jamais je ne lui avais parlé de la sorte. Elle m'avait toujours intimidée. Et maintenant même, j'étais intimidée non moins. Mais je parlais. Je me souviens que je parlais de son visage.
« Je ne peux plus supporter votre sourire. »
m'étais-je écrié tout à coup. « À Moscou, nous avons souvent parlé de vous, Maria Ivanovna et moi. Je vous imaginais sévère, splendide et féconde en malicieuses paroles mondaines. Vous vous rappelez, Maria Ivanovna ? Vous êtes allée chez elle. Dans le trajet de Moscou à Pétersbourg, j'ai rêvé de vous toute la nuit dans mon wagon. Tout le mois qui précéda votre arrivée, j'ai contemplé votre portrait dans le cabinet de votre père. » Et je ne devinais rien. La pétulance enfantine et l'aménité sont l'expression de votre visage. Voilà. Oh, vous savez aussi regarder avec hauteur et écraser du regard. Je me souviens comme vous m'avez regardé chez votre père le jour de votre arrivée de Moscou. Je vous ai vu alors. Et pourtant, si quelqu'un m'avait demandé ensuite « Comment est-elle ?» je n'aurais su répondre. Même je n'aurais pu dire si vous êtes grande ou petite. Aussitôt que je vous ai vue, je fus aveuglée. Votre portrait ne vous ressemble guère. Vos yeux ne sont pas foncés, mais clairs. Et c'est seulement l'ombre des longs cils qui les assombrit. Vous êtes forte, vous êtes de moyenne taille, mais votre embonpoint est ferme, léger, l'embonpoint d'une robuste jeune campagnarde. Et votre visage est tout à fait celui d'une beauté campagnarde. « Ne vous offensez pas, c'est bien plus beau. Un visage rond, rose, serein, courageux, rieur et... timide, je dis bien, timide. Un visage timide chez Katerina Nikolaïevna Akhmakov. Timide et chaste, je le jure. Plus que chaste, enfantin. Voilà votre visage. Je sais maintenant que vous êtes très intelligente. Vous avez un esprit joyeux, mais sans aucune espèce de phare. J'aime encore que le sourire ne vous quitte point. C'est mon paradis. J'aime encore votre calme, votre douceur, et que vous prononciez les mots doucement, rythmiquement et presque paresseusement. J'aime justement cette langueur. Qu'un pont s'écroule sous vos pas, même alors vous direz quelque chose doucement et rythmiquement. Je m'imaginais que vous étiez le comble de l'orgueil et de la passion, et pendant ces 2 mois, vous avez causé avec moi comme un étudiant avec un étudiant.
Jamais je ne me serais figuré que vous aviez ce front si curieux. Il est un peu bas, comme le front des statues. Il est blanc et délicat, du marbre sous la chevelure abondante. Vous avez la poitrine haute, la démarche souple. Vous êtes d'une beauté extraordinaire, et vous n'en êtes pas orgueilleuse. Je viens de m'en convaincre, tout en y pouvant croire. » Yeux grand ouvert, elle écoutait cette épite à l'âme. À plusieurs reprises, elle souleva d'un joli geste de peur et de protestation sa frêle main gantée. Chaque fois, elle l'oubliait en un suspens perplexe. Parfois, elle se rejetait tout en arrière. Deux ou trois fois, un sourire naquit sur son visage. À un moment, elle rougit. Mais vers la fin, elle eut décidément peur et commença à pâlir. À peine m'étais-je arrêtée qu'elle étendit son bras et d'une voix suppliante, mais limpide encore, « On ne peut pas parler ainsi. Il est impossible de parler ainsi. » Et s'étant levée, elle prit sans hâte son boa et son manchon. « Vous partez ? » m'étais-je écrié. « Je vous crains, décidément. Vous abusez, » dit-elle lentement, comme à regret, avec reproche. « Écoutez, je vous jure que je ne démolirai pas le mur. » « Mais vous avez déjà commencé, » dit-elle, et elle sourit. « Je ne sais plus si vous me laisserez passer. » Et peut-être pensait-elle, en effet, que je m'opposerais à son départ. « Soyez sans crainte, mais sachez-le, j'ai pris une grande décision. Et si vous consentez à illuminer mon âme, revenez, asseyez-vous et écoutez seulement ces deux mots. Sinon, eh bien, je vous ouvrirai moi-même la porte. » Elle me regarda et reprit sa place. Avec quelle indignation une autre serait sortie. « Et vous, vous êtes assise de nouveau ? » m'écriai-je avec enivrement. « Auparavant, vous ne vous permettiez pas de me parler ainsi. » « Auparavant, j'étais toujours intimidée. Et aujourd'hui encore, je suis entrée ne sachant que dire. Vous pensez que je n'ai plus peur maintenant ? » « J'ai peur. Mais tout à coup, j'avais pris une grande décision. » Et je sentais que je m'y conformerais. Et alors, j'ai commencé à dire tout cela. Écoutez, voici mes deux mots. Suis-je un espion ou non? Répondez-moi, c'est une question grave. Elle rougit. Ne répondez pas encore, Catherine Nikolaïevna, mais écoutez jusqu'au bout et dites-moi la vérité ensuite. J'avais d'un coup brisé tous les murs et je me lançais dans l'espace. 2. Il y a 2 mois, je me tenais là, derrière ce rideau, vous savez, et vous causiez de la lettre avec Tatiana Pavlovna. Je surgis et, hors de moi, parlais inconsidérément. Vous avez aussitôt compris que je savais quelque chose. Vous ne pouviez pas ne pas comprendre. Vous cherchiez un document important, pour vous, dangereux. Attendez, Catherine Nikolaïevna, tâchez de ne pas parler encore. Je vous déclare que vos soupçons avaient leur raison d'être. Ce document existe. C'est-à-dire, il existait. Je l'ai vu. C'est votre lettre à Andronikov, n'est-ce pas? Vous avez vu cette lettre? Demanda-t-elle vivement. Où l'avez-vous vue? Je l'ai vue. Je l'ai vue chez Kraft. Chez ce Kraft qui s'est brûlé la cervelle. Vraiment? Vous avez vu vous-même? Qu'est-elle devenue? Kraft l'a déchiré. Devant vous, vous avez vu? Devant moi. Il l'a déchiré en prévision de sa mort, probablement. Je ne savais pas alors qu'il se tuerait. Alors elle est détruite. Dieu soit loué. Prononça-t-elle avec un lent soupir, et elle se signa. Je n'avais pas menti. C'est-à-dire, j'avais menti, car la lettre était chez moi. Et jamais Kraft ne l'avait eue entre les mains. Mais ce n'était qu'un détail. Dans le fond, je disais la vérité, puisque, au moment où je mentais, je me donnais ma parole de brûler cette lettre le soir même. Je jure que si je l'avais eue dans ma poche, je l'en aurais tirée et la lui aurais remise. Mais je ne l'avais pas sur moi. Elle était dans ma chambre. Du reste, il est bien possible que je ne l'eusse pas rendue, pour esquiver la honte de ne l'avoir rendue plus tôt. N'importe. bien décidée à la brûler, je n'avais pas menti. Je jure que j'étais sincère en ce moment. Et maintenant, dites-moi, est-ce parce que vous me soupçonniez de détenir l'inquiétant papier que vous m'attiriez chez vous ? Attendez, Catherine Nikolaïevna, ne parlez pas encore. Un instant, laissez-moi dire. Chaque fois que je me rendais chez vous, je flairais que vous ne m'étiez accueillante que pour vous édifier, touchant cette lettre. Attendez, encore un instant. Et je souffrais, votre duplicité m'était insupportable, parce que j'avais discerné en vous un être noble entre tous. Je le dis franchement, j'étais votre ennemi, mais j'avais trouvé en vous la merveille. Vous allez me parler franchement, et quelle que soit votre réponse, je ne m'en fâcherai pas. Je sais que l'affirmative n'aurait rien de tellement scandaleux, serait même toute naturelle. Oui, il faut que vous me fassiez un aveu. Excusez ce mot. Il me faut la vérité. Il me la faut. Ainsi, dites, m'avez-vous attiré pour m'extorquer le document, Catherine Nikolaïevna ? Je parlais comme on tombe. Elle m'écoutait maintenant sans inquiétude. Pourtant, son regard était timide et elle semblait avoir honte. Pour cela, prononça-t-elle lentement et à mi-voix, pardonnez-moi, j'avais tort, ajouta-t-elle soudain, en levant légèrement ses bras vers moi. Je ne m'attendais pas à cela, je m'attendais à tout, sauf à ces deux mots. Et vous me dites, j'avais tort? Si franchement, j'avais tort? Criai-je. Oh, depuis longtemps, je me sentais coupable envers vous, et même, je suis contente que cela se soit découvert. Vous le sentiez depuis longtemps? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit alors? Mais je ne savais même pas comment dire, sourit-elle. C'est-à-dire, je l'aurais su, sourit-elle de nouveau. Mais une certaine honte m'empêchait, car vraiment je ne vous attirais au commencement que pour cela, comme vous vous êtes exprimé. Mais bientôt après cela m'était devenu odieux, et j'en avais assez de toute cette dissimulation, je vous assure, ajouta-t-elle sur un ton amer, et de tous ces soucis. Et pourquoi ne m'avoir pas interrogé alors, tout carrément? Il fallait dire, vous savez quelque chose à propos de la lettre, dès lors à quoi bon feindre? Et je vous aurais immédiatement tout dit, j'aurais avoué. Mais je vous craignais un peu. J'avoue aussi que je me méfiais de vous. Mais à vrai dire, si j'ai rusé, vous aussi vous l'avez fait, ajouta-t-elle en souriant. Oui, oui, j'étais indigne, m'écriai-je. Oh, vous ne savez pas encore tous les abîmes de ma chute. Des abîmes, déjà? Je reconnais votre style, avait-elle souri doucement. Et avec tristesse. Cette lettre fut le plus triste et le plus frivole événement de ma vie. Sous l'influence des circonstances, j'avais douté de mon cher et généreux père, sachant que cette lettre pouvait tomber dans les mains de gens mal intentionnés, et ayant toutes les raisons de le craindre, prononça-t-elle avec feu. Je tremblais qu'on en profitât, qu'on la montrât à papa, et cela pouvait l'impressionner énormément dans sa situation avec sa santé, et il aurait cessé de m'aimer. Oui, ajouta-t-elle, me regardant avec sérénité, et ayant probablement surpris quelque chose dans mon regard. Oui, je craignais aussi pour mon sort. Je craignais que, sous l'influence de sa maladie, il me privât de ses bienfaits. En cela aussi j'étais coupable envers lui. Il est si bon qu'il m'eût pardonné. Mais agir envers nous comme je l'ai fait, non, il ne le fallait pas. De nouveau, elle s'empourprait. Vous m'avez fait honte. Non, il ne faut pas que vous ayez honte, m'étais-je écrié. J'avais effectivement compté sur votre vivacité. Et je l'avoue, dit-elle en baissant les yeux. Catherine Nikolaïevna, qui vous force de me faire et à haute voix de tels aveux? J'étais comme grisée. Que vous en aurait-il coûté de me prouver en termes choisis qu'il y avait bien quelque chose, mais que ce quelque chose n'était rien? Vous comprenez? Comme on sait traiter la vérité dans votre grand monde. Je suis un sot, et je vous aurais cru tout de suite. J'aurais cru à tout de vous, à tout ce que vous auriez dit. Ce vous eût été bien facile d'agir ainsi. Comment avez-vous pu vous abaisser devant un être de ma sorte? En cela, du moins que j'ai dit vrai, je ne me suis pas abaissée devant vous, prononça-t-elle avec une grande dignité, évidemment n'ayant pas compris mon exclamation.
Oh, tout au contraire, je ne crie que cela.
Ah, ce fut si laid de ma part, exclama-t-elle en portant sa main à son visage comme pour cacher sa confusion. Hier encore j'avais honte, et c'est pourquoi j'étais si mal à mon aise pendant votre visite. Tout le mal vient de ce qu'il fallait que je connusse le sort de cette déplorable lettre. Mais d'ailleurs, cette lettre, je commençais déjà à l'oublier, parce que, ajouta-t-elle tout à coup, ce n'est pas pour cela que je vous recevais. Mon cœur avait tressailli. Certainement non, sourit-elle d'un fin sourire.
« Certainement non. Je... Vous l'avez bien souligné tantôt, Arkad Makarovitch, que souvent nous causions comme deux étudiants. Je vous assure que parfois je m'ennuie beaucoup dans le monde. Cela m'arrive surtout depuis mon séjour à l'étranger et tous ces malheurs de famille. Même, je fréquente peu le monde, et pas seulement par paresse. Souvent j'ai envie de partir pour la campagne. » Là, je relirai mes livres préférés. Je vous ai déjà parlé de ce projet. Vous souvenez-vous que vous avez ri de me voir lire les journaux russes, 2 journaux par jour?
Je ne riais pas.
Si fait, parce que cela vous impressionnait aussi. Et je vous l'ai avoué dès longtemps. Je suis russe et j'aime la Russie. Vous vous souvenez, nous lisions toujours les faits, comme vous appeliez cela. Vous êtes souvent un peu distrait, mais parfois vous vous animiez et alors trouviez toujours un mot juste, et vous vous intéressiez à ce qui m'intéressait. Quand vous êtes étudiant, vous êtes vraiment gentil et original. Les autres rôles, il semble, vous vont moins bien, ajouta-t-elle avec un sourire de malice jolie. Vous vous souvenez que, des heures, nous supputions des chiffres, statistiques comparées des écoles, des attentats contre les personnes, des attentats contre la propriété, que sais-je, et l'on s'ingéniait à dégager une tendance. J'ai rencontré chez vous de la sincérité. Dans le monde, on ne parle jamais ainsi aux femmes. La semaine dernière, j'avais tenté d'engager une conversation avec le prince Hof à propos de Bismarck, sujet qui m'intéressait beaucoup. Imaginez-vous, il s'assit à côté de moi et se mit à me documenter, et même avec force détail, mais tout le temps avec cette ironique condescendance qui porte sur les nerfs. C'est le ton habituel qu'emploient les grands hommes avec nous, les femmes, quand elles se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et vous souvenez-vous que nous deux, nous nous sommes presque brouillés à propos de ce même Bismarck ? Se met-elle à rire tout à coup. Je n'ai jamais rencontré que 2 hommes qui me parlassent sérieusement. Feu mon mari, un homme très intelligent et vraiment noble, prononça-t-elle gravement. Et encore, mais vous savez qui ?
Versilov, m'écriai-je.
Oui, j'aimais l'écouter. J'étais devenue à la fin tout à fait... trop même peut-être, franche. Mais c'est alors qu'il a cessé de me croire.
Il ne vous croyait pas?
Non. Du reste, personne ne me croyait jamais.
Mais Versilov, Versilov.
Et il ne se contenta pas de ne pas me croire, prononça-t-elle en baissant les yeux et avec un sourire indécis. Mais il décida que j'avais tous les vices.
Quand vous n'en avez pas un seul.
Si, j'en ai, moi aussi, quelques-uns.
Versilov ne vous aimait pas, et c'est pour cela qu'il ne vous a pas comprise,
m'étais-je écrié, les yeux étincelants.
Laissez, et ne me parlez jamais de cet homme, ajouta-t-elle non sans quelque solennité. Mais il est temps. Elle s'était levée pour s'en aller. Eh bien, me pardonnez-vous ou non ? Demanda-t-elle comme rassérénée.
Moi ? Vous pardonnez ?
Écoutez, Catherine Nikolaïevna, et ne vous fâchez pas. Il est vrai que vous vous mariez ?
Ce n'est pas encore chose faite, dit-elle d'un air contraint.
Est-ce un homme bon ? Pardonnez-moi cette question.
Oui, il est très bon.
Ne répondez plus, ne m'honorez pas d'une réponse. Je sais que de telles questions de ma part sont impossibles. Je voulais seulement savoir s'il est digne, mais je saurai de lui directement.
Ah, écoutez, dit-elle pas du tout rassurée.
Non, je m'abstiendrai, et que Dieu vous donne tout le bonheur que vous aurez choisi, pour le bonheur que vous venez de me donner. Vous êtes gravé maintenant dans mon cœur, à jamais. J'ai acquis un trésor, la notion de votre perfection. Je soupçonnais la perfidie, une coquetterie grossière, et j'étais malheureux. Et voici que tout se fait clair comme le jour. Au lieu de l'hypocrisie, de la perfidie et d'un serpent, j'ai trouvé ici la franchise, la sympathie, l'étudiant. Vous riez ? Bien. Mais vous êtes une sainte. Vous ne pouvez pas rire de ce qui est sacré. Oh non, mais vous avez des mots si terribles. Que veut dire, par exemple, la perfidie d'un serpent ? Dit-elle dans un rire.
Aujourd'hui, vous avez laissé échapper un mot précieux, continuai-je. Comment aviez-vous pu dire devant moi que vous comptiez sur mon impétuosité ? Mais vous, vous imaginiez avoir des torts et vous vouliez vous châtier. Or, vous n'aviez pas de tort. Et d'ailleurs, nulle tâche ne saurait vous souiller. Mais tout de même, vous auriez pu ne pas employer précisément ces mots. Une telle franchise démontre votre chasteté, votre estime, votre foi en moi. Clamai-je avec incohérence.
Oh, ne rougissez pas, ne rougissez pas. Et qui a pu vous calomnier, dire que vous êtes une femme à passion ?
Oh, pardonnez-moi, je vois une expression douloureuse sur votre visage. Pardonnez à un adolescent exalté ses paroles maladroites. Et que nous importent maintenant les paroles ? N'êtes-vous pas au-dessus de toutes les paroles ?
Versilov disait un jour que ce n'était pas par jalousie qu'Othello avait tué Desdémone et s'était suicidé ensuite, mais parce qu'on lui avait enlevé son idéal. J'ai compris cela, aujourd'hui qu'on m'a rendu mon idéal.
Vous me flattez trop, je ne mérite pas. Vous souvenez-vous de ce que je vous disais de vos yeux ?
Ajouta-t-elle en plaisantant.
Que ce ne sont pas des yeux, mais deux microscopes, et qu'au lieu d'une mouche, je vois un dromadaire.
Non, ici ce n'est pas un dromadaire.
Comment ? Vous vous en allez ?
Elle se tenait au milieu de la chambre, le boa et le manchon à la main.
Non, j'attendrai que vous soyez sortis, je partirai ensuite, mais après avoir écrit deux mots pour Tatiana Pavlovna.
Je m'en vais tout de suite, mais encore une fois, soyez heureuse, seule ou avec celui que vous avez élu, et que Dieu soit avec vous. À moi me suffira mon idéal.
Cher, bon Arkad Makarovitch, croyez que je vous...
Mon père disait toujours de vous, le cher, le bon garçon.
Croyez que je n'oublierai jamais ce que vous m'avez raconté du pauvre garçon, abandonné chez des étrangers et de ses rêves solitaires. Je comprends trop comment s'est formée votre âme.
Mais à présent, tout étudiant que nous soyons, ajouta-t-elle avec un sourire suppliant et gêné et en me serrant la main,
il nous sera impossible de nous voir comme auparavant, et vous le comprenez.
Impossible.
Impossible pendant longtemps encore. Tout à fait impossible. Nous nous rencontrerons parfois chez papa.
Vous craignez l'impétuosité de mes sentiments ? Vous ne me croyez pas ? Voulais-je m'écrier.
Mais tant de confusion paraissait dans toute sa personne que mes paroles moururent.
Dites,
m'avait-elle arrêté au moment où je franchissais la porte. « Vous avez vu vous-même que cette lettre était déchirée. Vous vous souvenez bien de cela? Comment avez-vous su que ce fut justement cette lettre à Andronikov ?»«
Kraft me l'a montré. Adieu. Quand je venais chez vous, je perdais tout courage. Et si vous sortiez un instant, j'étais prêt à baiser l'endroit du tapis où s'était posé votre pied. »
Sans la regarder, je sortis rapidement. Un tempétueux enchantement m'emplissait l'âme. En arrivant à la maison de maman, je me rappelais toute l'ingratitude de Lise envers Anna Andreïevna, son cruel et monstrueux mot de tantôt, et je sentis mon cœur se serrer pour eux deux. Quel cœur dur ils ont tous! Et Lise, qu'a-t-elle? Pensai-je en mettant le pied sur le perron. Je renvoyai Mathieu, lui ordonnant de venir me prendre chez moi à 9 heures.
Chapitre 5. 1. J'étais en retard pour le dîner, mais la famille n'était pas encore à table. On m'attendait. Peut-être parce que je dînais rarement à la maison. Le menu s'était compliqué de hors-d'œuvre, sardines, etc. Mais pour mon étonnement et ma peine, les regards étaient sans joie. Lise avait à peine souri à mon entrée, et maman était visiblement inquiète. Versilov souriait, mais avec effort. « Ne se serait-il pas querellé ?» me demandai-je. Du reste, au début, tout alla bien. Versilov, pourtant, avait fait une petite grimace en voyant le vermicelle. Une grande lorsqu'on avait servi le rôti à la polonaise. Je n'ai qu'à prévenir que mon estomac ne supporte pas tel ou tel plat pour que ce plat paraisse sur la nappe le lendemain. Avait-il laissé échapper avec découragement. Mais qu'inventez donc, André Petrovitch? Il n'y a pas moyen de trouver un plat nouveau, avait répondu timidement maman. Ta mère, c'est tout l'opposé de certains journaux pour qui ce qui est neuf est bon, dit Versilov avec bonne humeur. Mais il ne réussit qu'à effrayer davantage maman, qui, naturellement, n'avait rien compris à sa comparaison. À ce moment, entra Tatiana Pavlovna. Elle déclara avoir déjà dîné et s'assit sur le canapé. Je n'étais pas encore parvenue à acquérir les bonnes grâces de cette personne. Même, elle était devenue envers moi plus acariâtre ces derniers temps. J'avais fini par éviter autant que possible de la rencontrer. Lors de la restitution de l'héritage, il y avait maintenant 2 mois, je lui avais fait une visite, dans le dessein de causer avec elle du désintéressement de Versilov, et je l'avais trouvée fort en colère. Que tout eût été rendu quand on pouvait se contenter de rendre la moitié, cela lui avait déplu. Et brusquement, elle me disait « Tu es sûr, je parie, que s'il s'est désisté de toute prétention à l'héritage et a envoyé un cartel, c'est uniquement pour plaire à Arkad Makarovitch. » Ma foi, elle avait presque deviné. Sur le moment, j'avais bien eu l'intuition de quelque chose de pareil. Dès son entrée, je sentis qu'elle allait me tomber dessus, et même qu'elle était venue expressément pour cela. Elle n'allait pas tarder à engager les hostilités. Remarquant que Lise était triste, je dis sans la moindre intention méchante « Pour une fois qu'il m'arrive de dîner ici, te voilà toute triste, Lise. Tu as choisi mon jour pour ta mélancolie ?»«
J'ai mal à la tête, » répondit-elle.
« Ah, Dieu !» intervint Tatiana Pavlovna. « Qu'est-ce que cela fait que tu sois souffrante ? Arkad Makarovitch a daigné venir dîner, tu dois danser et te réjouir. »
« Positivement, vous êtes le désespoir de ma vie, Tatiana Pavlovna. Jamais je ne viendrai ici lorsque vous y serez. » Et de dépit, je frappai la table de la paume de ma main. Maman tressaillit, Versilov me regarda d'un air singulier. Je me mis à rire, et immédiatement je leur demandai pardon.
« Tatiana Pavlovna, je retire le mot « désespoir », dis-je gaiement.
« Non, non, ne retire rien. Il m'est flatteur d'être ton désespoir. »«
Mon cher, il faut savoir supporter les petits malheurs de l'existence. »
mâchonna Versilov en souriant. « Sans malheur, la vie ne vaut pas d'être vécue. »«
Savez-vous, parfois vous êtes un affreux rétrograde, »
m'exclamai-je avec un rire nerveux.
« Mon ami, je m'en moque. »«
Vous vous en moquez, vous êtes trop poli. Pourquoi ne dites-vous pas à un âne tout simplement qu'il est un âne ?»«
Tu parles de toi ? » ?»«
D'abord, je ne peux ni veux juger personne. »
« Pourquoi ne voulez-vous pas ? Pourquoi ne pouvez-vous pas ? » ?»«
Parce que je suis paresseux et que le rôle de juge me dégoûte. Une femme d'esprit m'a dit un jour que je n'avais pas le droit de juger les autres, qu'il faut en acquérir le droit par la souffrance. Je me le suis tenu pour dit. »
« Et c'est Tatiana Pavlovna qui vous a dit cela ? » ?»«
Comment le sais-tu ? » ?»«
Je l'ai deviné à son visage. Il s'est tiré tout à coup. »
J'avais deviné par hasard. En effet, cette phrase, comme j'ai su plus tard, avait été dite par Tatiana Pavlovna à Versilov la veille au cours d'une conversation violente. De plus en plus, je sentais que j'étais arrivé chez eux fort mal à propos, avec mon cœur plein de joie et mes expansions toutes prêtes. Chacun d'eux avait son souci.
Je ne comprends rien, parce que tout ceci est très abstrait. « Vous aimez parler abstraitement, André Petrovitch. C'est un trait égoïstique. »«
Pas bête.
Mais laisse-moi. »«
Non, permettez, » continuai-je avec feu. « Que veut dire acquérir par la souffrance le droit de juger ? Qui est honnête et juge, voilà ma manière de voir. »«
Dans ce cas, il y aura pénurie de juges. »«
J'en connais déjà un. » »«
Qui ?»
Il est assis et me parle en ce moment. »
Versilov, avec un sourire ambigu, se pencha à mon oreille et, me prenant par l'épaule, me chuchota
« Il ment toujours !»
C'était si inattendu et dit d'une façon si sérieuse que je frissonnais nerveusement. Je le regardais d'un air effaré, mais aussitôt il se mit à rire.
« Dieu soit loué !» avait dit maman, qui d'abord avait été inquiète de ce que Versilov avait pu me dire à l'oreille. Et moi qui avais cru...
« Ne te fâche pas contre nous, Arcade. Tu trouveras toujours des gens spirituels. Mais qui t'aimera quand nous ne serons plus là ?»«
C'est pour cela que l'amour des parents est immoral, maman. Il est immérité.
L'amour, il faut le mériter. »
« Ici, on veut t'aimer pour rien. »
Tout le monde s'était mis à rire.
« Eh bien, maman, vous n'avez peut-être pas voulu tirer, mais vous venez de tuer un oiseau. »
M'étais-je crié en riant aussi.
« Et t'imaginais-tu vraiment qu'il y eut de quoi t'aimer ?»
dit agressivement Tatiana Pavlovna.
« Non seulement il t'aime pour rien, mais à travers toutes les répugnances. »
« Ah, que non !» m'étais-je écrié gaiement.
« Et savez-vous si quelqu'un ne m'a pas dit aujourd'hui m'aimer ?»«
En se moquant de toi !» avait dit Tatiana Pavlovna en réplique immédiate et comme si elle eût prévu ma phrase.
« Oui, un homme délicat, et surtout une femme, sera dégoûté de ta seule saleté morale. Tu as une raie sur la tête, du linge fin, un habit de bon faiseur, mais tout cela, c'est de la boue !» Qui t'a nippé, nourri ? Qui te donne de l'argent pour jouer à la roulette ? Rappelle-toi chez qui tu n'as pas honte de prendre de l'argent.
L'argent que je dépense, c'est mon argent. Je ne dois de compte à personne.
Ton argent ?
Sinon le mien, celui d'André Petrovitch, il ne me désavouera pas. Je prélève chez le prince quelques acomptes sur sa dette à André Petrovitch.
« Mon ami, » dit Versilov, « là-bas, il n'y a pas un sou de mon argent. »
La phrase était affreusement significative. Je coupai court. Oh, évidemment, j'aurais pu me tirer de ce pas par un noble élan, un mot à effet ou quelque autre artifice. Mais tout à coup, j'avais remarqué sur le visage sombre de Lise une expression méchante, accusatrice, une expression injuste. Presque une raillerie, et ce fut comme si le diable avait tiré mes ficelles. Il me semble que vous, mademoiselle, vous allez souvent faire visite à Daria Onésimovna dans l'appartement du prince. Veuillez donc avoir l'obligeance de lui remettre, à elle-même, ces 300 roubles pour lesquels vous m'avez aujourd'hui tant réprimandé. » Et je lui tendais la liasse. Croira-t-on que ces vilaines paroles avaient été dites sans aucune intention, c'est-à-dire sans la moindre allusion à quoi que ce soit? Mieux, il était impossible qu'elles continssent aucune allusion, car à ce moment, je ne savais absolument rien. Peut-être voulais-je seulement la piquer de quelques pointes bien anodines, comme « Voilà une demoiselle qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, puisqu'elle veut absolument s'ingérer dans les affaires des messieurs, qu'elle se charge donc d'une commission pour un jeune officier pétersbourgeois. » Or, quel fut mon ébahissement quand tout à coup maman se leva et, me menaçant du doigt, cria « Ne t'avise pas !» Rien ne m'avait préparé à cette algarade. Je m'étais brusquement levée, avec une sorte de plaie douloureuse au cœur, ayant deviné qu'il se passait quelque chose d'atrocement pénible. Maman, se couvrant le visage de ses mains, sortit rapidement de la chambre. Lise, sans regarder de mon côté, la suivit. Tatiana Pavlovna me regarda une demi-minute en silence. « Est-ce que vraiment tu as voulu dire une méchanceté ? » dit-elle énigmatiquement, et sans attendre ma réponse, elle disparut. Versilov se leva de table, prit son chapeau. « Je veux croire que tu n'es pas si bête, que tu n'es qu'innocent, » me dit-il d'une voix nonchalante et moqueuse. « Si elles reviennent, dis que l'on ne m'attende pas pour le dessert, je me promènerai un peu. » D'abord, je restai ébaubi, puis me sentis offensé, et enfin, vis clairement que j'avais tort. D'ailleurs, ignorant en quoi résidait mon délit. 5 minutes, j'attendis que quelqu'un reparût. Personne. Je pris mon chapeau et montai dans ma chambre d'autrefois. Je savais qu'elles y étaient. Elles, c'est-à-dire maman et Lise, et que Tatiana Pavlovna avait regagné sa demeure. Je les trouvai à chuchoter sur mon canapé. Tout de suite, elles se turent. À mon étonnement, elles n'étaient pas fâchées contre moi. Maman, du moins, me sourit. « J'ai tort, maman. »« Bien, bien, ce n'est rien. Seulement, aimez-vous, ne vous brouillez jamais, et Dieu vous rendra heureux. »« Il ne me fera jamais de peine, maman, je vous le dis, » prononça Lise d'une voix convaincue et tendre. « Sans cette Tatiana Pavlovna, rien ne serait arrivé, » m'étais-je écrié. « La vilaine femme !»« Voyez-vous, maman, entendez-vous ?» Élise me désignait du doigt. « Voilà ce que je vous dirai à toutes les deux. S'il fait mauvais vivre, c'est ma faute. Tout le monde, sauf moi, est délicieux. »« Mon petit Arcade, ne te fâche pas, chérie. Mais si tu cessais... de jouer, de jouer !» « Je cesserai, maman. Je vais au jeu aujourd'hui pour la dernière fois. Je cesserai d'autant plus qu'André Petrovitch a déclaré qu'il n'y avait pas là-bas un copec qui soit sien. Vous ne croiriez pas combien je suis confus. Du reste, je dois m'expliquer avec lui. Maman chérie, la dernière fois, j'ai dit ici un mot malsonnant. Petite maman, je m'en tais. Je veux avoir la foi. Ce n'était que fanfaronnade. » Et j'aime le Christ. La dernière fois, en effet, nous avions eu un entretien sur les choses de la religion, et j'avais un peu scandalisé ma mère. Sur mon aveu de repentir, elle me sourit comme à un enfant. Le Christ pardonnera tout, Arcade. Il te pardonnera ton blasphème. Il pardonnera des choses pires. Le Christ est paternel. Le Christ n'a besoin de rien. Et luira même dans les ténèbres les plus profondes. Je leur fis mes adieux et sortis, réfléchissant aux chances que j'avais de rencontrer Versilov. Peut-être m'attendait-il chez moi. Je m'y rendis à pied. Par ce temps de gel, il faisait bon marcher.